Chapitre 90, où il est longuement question des vertus du colonel comte Frédéric Rapt. Après s'être légèrement humecté le gosier, le général reprit. L'empereur Alexandre ne s'était pas trop avancé en disant que sa pupille était charmante. Fille d'un prince tcherkesse qui s'était révolté contre son souverain et qui avait été tué dans la révolte, la jeune fille s'était réfugiée avec le trésor de sa famille dans les états de l'empereur de Russie qu'il avait prise sous sa tutelle. Ce trésor, moitié en pierres précieuses, moitié en or et en argent monnayé, pouvait s'élever à une valeur de 5 ou 6 millions. Au retour d'Erfurt, le général reprit donc l'hôtel de la Motte-Houdan qui, à la suite de la décadence de la famille, après avoir été loué, allait être vendu. Il le fit meubler d'une façon ravissante et, par un raffinement de galanterie toute française, ayant envoyé son aide de camp visiter l'appartement qu'occupait la princesse Tchouvalieski à Moscou, chargea le comte Rapt de le précéder à Paris pour faire accommoder à la circassienne tout un rez-de-chaussée donnant sur le jardin. L'arrivée de la princesse Rina à Paris fut un événement dans le monde impérial. La belle circassienne était presque un trophée de cette magnifique campagne de 1807. Mais notre vie plaisait peu à l'indolente fille de l'Orient. Couchée toute la journée sur ses larges coussins nommés taffeta, elle roulait, pour toute distraction, dans sa main un tchoki aux 1000 grains, et, pareil à une fée des 1001 nuits, ne vivait que de confitures de roses. Il résulta de cette sauvagerie orientale que peu de personnes virent alors, et ont même vu depuis, la princesse Tchouvalieski. Ceux qui furent admis à cette faveur sortirent en disant que c'était une splendide personne, aux yeux nacrés, aux cheveux noirs et luisants, au teint mat comme de lait, et que de tous les serviteurs de Napoléon, le général de La Motte-Houdan n'était certainement pas le plus mal récompensé. La possession de cette ravissante créature et des 6 millions qu'elle avait apportés en dot lui étant assurée d'une manière beaucoup plus positive que le trône de Westphalie ne l'était à Jérôme, le trône d'Espagne à Joseph, le trône de Naples à Murat et le trône de Hollande à Louis. Ce qui surtout semblait condamner la belle Rina, qu'à cause de sa dignité vraiment royale on finit par appeler Regina, ce qui surtout semblait la condamner à un isolement perpétuel, ou du moins à une société restreinte, c'est qu'elle ne parlait que le circassien, le russe et l'allemand. Par bonheur, le général connaissait cette dernière langue de façon à comprendre tout ce que lui disait la princesse, et à pouvoir, de son côté, se faire comprendre d'elle. Quant au comte Rapt, élevé en Hongrie jusqu'à l'âge de 19 ans, il parlait l'allemand comme sa langue maternelle. Ainsi que tu le comprends bien, mon cher Pétrus, cette faculté de la princesse et du comte de se transmettre leurs idées dans une langue qui leur était familière, sans être cependant leur propre langue, amena entre eux des rapprochements. Tu trouves le comte Rapt désagréable parce qu'il va épouser Regina. Je le trouve laid parce qu'on a voulu l'introduire malgré moi dans ma famille et que j'ai crié comme une anguille de melon à l'idée de me reconnaître le père d'un pareil coquin. Mais les mauvaises langues du temps, et il y avait une foule de mauvaises langues dans la population française depuis que les hommes de 18 à 40 ans en avaient à peu près disparu, les mauvaises langues du temps prétendaient que la femme du général de La Motte-Houdan n'était pas de notre avis. Ces propos vinrent sans doute de ce que le général, oubliant de plus en plus la distance qui existe entre un chef de corps et son aide de camp, logea le comte Rapt, qu'il aimait comme un neveu, dans son propre hôtel, ne pouvant, disait-il, se séparer d'un homme dont le dévouement de toutes les heures lui était si nécessaire. Au retour de la campagne de 1808, la princesse Tchouvalieski fut donc installée dans son boudoir circassien et le comte Rapt dans le pavillon des fleurs. Tu connais ce pavillon, n'est-ce pas? C'est là probablement que mademoiselle de La Motte-Houdan te donne ses séances. Est-ce que le comte Rapt y demeure encore, mon oncle? Oh non! Sa fortune grandissant et la princesse vieillissant, le comte Rapt a maintenant son hôtel à lui. Mais à cette époque où il n'était encore que capitaine et aide de camp, il ne l'avait pas encore. et il demeurait rue Plumet dans l'hôtel de son général. D'ailleurs, à cette époque, mon cher, on ne demeurait pas, on était comme l'oiseau sur la branche, on perchait. La guerre d'Espagne était dans son beau et allait mal, comme toutes les guerres où Napoléon ne figurait pas de sa personne. Le génie de la République était mort avec les Kléber, les Dessé, les Hoche et les Marceau. Il n'y avait plus que le génie des batailles et il était tout entier dans Napoléon. Vers le commencement de novembre 1808, Napoléon partit pour l'Espagne avec son état-major. C'était le lendemain du jour où le général venait de s'installer dans son hôtel de la rue Plumet et d'y installer sa nouvelle épouse. Tu conçois qu'il était bien triste, pour une circassienne arrivée de la surveille à Paris, d'y rester seule en compagnie d'une femme de chambre. Bien, la femme de chambre de la princesse était la seule personne qui parla russe et circassien. Monsieur de la Motte-Houdan et le contrapte étant les seuls qui parlassent allemand, la compagnie de la belle princesse se bornait à son mari, au contrapte et à mademoiselle Grouska. Aussi, malgré les instances du contrapte qui tenait à faire la campagne d'Espagne, le général de la Motte-Houdan exigea-t-il qu'il restât à Paris. Il fallait bien que quelqu'un se chargeât d'acclimater la pauvre princesse. Le devoir d'un aide de camp est d'obéir à son général, le contrapte obéit. Au reste, la campagne ne fut pas longue. Arrivé le 4 novembre en Espagne, Napoléon était de retour à Paris dans les premiers jours de janvier. L'Autriche s'était révoltée. C'est ainsi qu'on appelait alors l'action d'un royaume ou d'un empire qui déclarait la guerre à la France. Pendant sa courte absence, le général n'oubliait pas ce qu'il avait fait perdre à son fidèle rapt en ne l'emmenant point avec lui. Comme fiche de consolation, le comte avait reçu son brevet de chef de bataillon. On s'étonna quelque peu que ce fût au moment où il était éloigné des drapeaux que le contrapt obtint cette nouvelle faveur, d'autant plus remarquable que le jeune officier avait 24 ans à peine. Mais les mauvaises langues y trouvèrent une raison. L'aide de camp d'un général, dirent-ils, est au service de son général avant d'être au service de l'empereur ou de l'empire. Son titre « aide de camp » l'indique. Or, ajoutaient les mauvaises langues, ce fut surtout pendant ces 2 mois où le général de la Motte-Houdan demeura en Espagne que l'aide de camp rapt aida son général. Il n'avait pas perdu son temps, l'actif jeune homme. À son passage à Paris, le général de la Motte-Houdan trouva sa femme acclimatée, son hôtel meublé, peuplé de domestiques, établi enfin sur le pied qui convenait à sa nouvelle fortune. Je dis « à son passage » parce que, en réalité, le général ne fit que passer à Paris. Il fut, dès la fin de février, acheminé sur la Bavière, où notre ami Maximilien nous appelait à grands cris à son secours. Cette fois, le général emmena son aide de camp et la confidente Grouska resta seule près de sa princesse. Je ne te narrerai pas la campagne de 1809. Ce diable d'homme qu'on appelait Napoléon avait fait à cette époque un pacte avec la fortune. Le 20 avril, victoire d'Abensberg, le 21 avril, victoire de Landshut, le 22 avril, victoire d'Eckmühl, le 4 mai, victoire d'Ebersberg, le 13 mai, entrée à Vienne, le 22 mai, bataille d'Essling, enfin, le 5 juillet, je crois, bataille de Wagram, qui termina la lutte. Il va sans dire que, dans cette campagne de 4 mois, depuis Abensberg jusqu'à Wagram, le général et son aide de camp avaient fait des prodiges de valeur. Seulement, vers la fin de la dernière journée de combat, le général avait reçu une grave blessure. Une balle lui avait contourné l'os de la cuisse, et on hésita un instant pour savoir si on ne lui couperait pas la jambe. Sa fermeté seule a déclaré qu'il ne demandait pas mieux que de mourir, mais qu'il voulait mourir entier, sauva le membre menacé. L'empereur, en récompense de la belle conduite du général, ne pouvant pas lui donner cette honorable mission à lui-même puisqu'il était couché sur son lit de douleur, chargea son aide de camp, le contrapte, d'aller porter à Paris la nouvelle de la bataille de Wagram. L'aide de camp partit le soir même. 7 jours après, il était à Paris, où il arriva juste d'abord pour annoncer la grande victoire qui devait amener le traité de Schönbrunn. Et puis ensuite, récompense de sa fatigue et de son dévouement, pour recevoir dans ses bras la plus charmante petite fille que jamais circassienne ait donnée, après 8 mois de mariage, à un général français. Oh, mon oncle! Hein, mon cher, les chiffres sont les chiffres, n'est-ce pas? Le général épouse la princesse, que lui amène son aide de camp le 25 octobre 1808. La princesse accouche le 13 juillet 1809. Cela fait juste 8 mois et demi. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant à cela. Le code et la médecine constatent qu'il peut y avoir d'heureux accouchements à 7 mois, à plus forte raison à 8 mois et demi. L'accouchement fut des plus heureux, et la preuve, c'est que la petite fille n'est autre que la belle Regina, qui reçut sur les fonds du baptême le même nom que sa mère, arrangé, comme l'avait été celui de sa mère, à la manière française. Mais alors, mon oncle, vous voudriez dire que... Ah, je ne veux rien dire, mon ami, ne me fais point parler, que Regina serait la fille... du général de La Motte-Houdan, c'est chose incontestable. Pater est quem nuptiam demonstrant. Mais, mon oncle, qui peut pousser le contrat à cette infâme action? Regina a 1 million de dot. Mais le misérable a 25 000 livres de rente. Cela lui en fera 75, et comme à la mort du général et de la princesse, Regina héritera de 2 autres millions, cela lui constituera 175 000 livres de rente. Mais ce rapt est un indigne scélérat. Qui est-ce qui te dit le contraire? Que le général, qui ignore tout, consente à ce mariage, je comprends cela, mais que la princesse souffre, que sa fille épouse... Oh, mon Dieu, mon ami, cela se fait tous les jours. Tu n'as pas idée de la peine qu'ont les gens, propriétaires d'une grande fortune, à laisser passer cette fortune dans des mains étrangères. Puis, il faut dire que la pauvre princesse est dans un état affreux. Elle a une maladie nerveuse qui la tient presque toujours couchée. Elle en est arrivée à ne plus pouvoir supporter l'éclat du jour, de sorte qu'elle vit dans un crépuscule éternel, mangeant de la conserve de rose, respirant des parfums, et roulant les grains de son tchotki, toute chose qui agace singulièrement les nerfs. Qui dit même qu'elle sait que sa fille se marie? Mais, mon oncle, vous qui semblez si bien au courant de toute cette trame, souffrirez-vous donc que... Il est vrai que, par la marquise de la Tournelle, souffrirez-vous de sang-froid qu'on accomplisse sous vos yeux un pareil crime? Bon, et en quoi cela me regarde-t-il, je te le demande, de quel droit m'y opposerais-je? Et du droit qu'a tout honnête homme de démasquer un criminel? Pour démasquer un criminel, il faut des preuves. Puis, mon cher, il n'y a pas de loi qui punisse ces sortes de crimes, c'est-à-dire les vrais crimes. Toi, tu feras comme moi, Pétrus, tu regarderas faire. Ah, non, 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 par exemple. Tu laisseras le diable mêler les chevaux de soie noire du contrat à les chevaux d'or de la belle Regina, et tu attendras que le diable dénoue ce que le diable aura noué. Pétrus poussa un soupir qui pouvait passer pour un gémissement. « Vois-tu, mon ami, continua le vieux général, il y a un proverbe qui dit qu'entre l'arbre et l'écorce, il ne faut mettre le doigt. C'est un proverbe plein de sagesse. D'ailleurs, tout ce que je te rapporte là, tu comprends bien, ce sont des on-dits. Oh, et cet homme vit dans le monde en grand seigneur, et il a une réputation exécrable. » Ce qui ne l'empêche pas, mon oncle, d'être à la tête d'un parti. Du parti jésuite. Oh, aide de camp seulement, comme chez monsieur de La Motte-Houdan. Qu'il va être ministre. Et si je lui donne ma voix? Qu'il va épouser Regina. Ah, cela, c'est son grand crime. Mon oncle, ce crime ne s'accomplira pas. Oh, mon ami, dans 8 jours, mademoiselle Regina de La Motte-Houdan sera la comtesse Rapt. Je vous dis, moi, que ce mariage ne s'accomplira pas, répéta Pétrus en se levant vivement. Et moi, dit le général avec une dignité suprême, moi, je vous dis, monsieur, que vous allez vous asseoir et m'écouter. Pétrus retomba en soupirant sur son fauteuil. Le général se leva et alla s'appuyer au dossier du siège où était assis son neveu. Je vous dis, Pétrus, qu'indigné en tout temps, je l'espère, de l'action qui s'accomplit aujourd'hui, vous ne l'êtes cependant si fort que parce que vous aimez Regina et que la chose vous touche. Maintenant, dites-moi, quel droit avez-vous d'aimer Regina? Qui a autorisé cet amour? Elle? Sa mère? Son père? Personne. Vous êtes un étranger introduit dans la famille. De quel droit un étranger va-t-il donc peser sur le destin de cette famille où il a été introduit? De quel droit va-t-il dire à une femme qui n'a peut-être failli que par ignorance de nos mœurs « Vous n'êtes qu'une épouse adultère ». À un mari heureux, ignorant du passé, sûr de l'avenir, vous êtes un mari trompé. À une fille qui respecte sa mère, qui aime son père, car rien ne dit que M. de Lamothe-Houdan ne soit pas le père de Regina, tu vas, à partir d'aujourd'hui, mépriser ta mère et regarder ton père comme un étranger. Allons donc, mon neveu, vous qui vous vantez d'être un honnête homme, si vous faisiez cela, vous seriez un infâme coquin, un gueux dans la trempe de M. Rapt, et vous ne le ferez pas, c'est moi qui vous le dis. Mais, mon oncle, qu'arrivera-t-il? Cela ne vous regarde pas, dit le général, cela regarde un juge bien autrement juste et bien autrement sévère que vous. Un juge qui sait comment les choses se sont passées, lui qui a tout vu, tout entendu, et qui, soyez tranquille, un jour ou l'autre, rendra son jugement, cela regarde Dieu. « Vous avez raison, mon oncle, dit le jeune homme, en se levant et en tendant la main au général. Et dans cette dernière entrevue, je ne dirai pas un mot de ce que vous venez de me raconter. Sur ta parole de gentilhomme, sur ma parole d'honneur. Eh bien, embrasse-moi, car quoique tu sois le fils d'un pirate, je crois à ta parole comme je croirais, à celle de ton pirate de père. » Le jeune homme se jeta dans les bras de son oncle, prit son chapeau et sortit précipitamment. Il étouffait.